plus approprié à sa conception du bonheur, ou du devoir s'il en a eu. Non pas, c'est son problème. Dans notre société, c'est ton problème, ça ne me regarde pas, c'est chacun pense ce qu'il veut, c'est devenu une réponse quotidienne à une condition naturellement. La seule condition, c'est que l'usage qu'il fait de sa liberté, sa définition privée de la bonne, en fond le libéralisme, privatise la philosophie, la religion, la métaphysique. Chacun a la sienne, et vous pouvez la pratiquer comme vous voulez, à une seule condition. Évidemment, c'est que vos choix soient compatibles avec les choix des autres et leur propre liberté. Et pour ça, il y a une instance qui est placée au-dessus des individus qui sont chacun engagés séparément dans la recherche de la vie bonne, chargée d'harmoniser le mouvement de ces différentes libertés, éventuellement en fixant quelques règles, c'est le droit. Et l'État libéral, sa fonction véritable n'est rien d'autre que de garantir l'effectivité du droit. Et les principes qui gouvernent le droit, les libéraux appellent ça les principes de la justice. Prenons encore Benjamin Constant, il n'y a pas un libéral plus clair et d'ailleurs plus sympathique. Il dit tout d'une manière limpide. Prions l'autorité de rester dans ses limites, qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux. C'est donc très simple. C'est ce que d'ailleurs les philosophes américains et anglais appellent la thèse libérale de la primauté du juste sur le bien. Votre conception du bien, c'est votre problème. Ça ne nous regarde pas. C'est ça, le grand discours libéral. Et le seul souci, c'est que la société soit juste et qu'elle maintienne cet équilibre. Alors, bien sûr, ça veut dire que le droit libéral est très différent du droit des anciennes sociétés. Il devient la seule instance de régulation sociale, mais pas à la manière étouffante et arbitraire des anciens montages normatifs, telles que la religion, la vertu républicaine, etc. Ce qu'on appelle une théorie de la justice, disait John Rawls, le libéral, il regardait tous les libéraux, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que la théorie de la justice était chez Cicéron, Aristote, ou saint Thomas d'Aquin. On ne parle plus au nom d'une vérité ou de la prétention à savoir ce qui est bien ou mal. Plutôt que d'une théorie de la justice, on va parler d'une théorie de l'ajustage, au sens mécanique de l'ajustement, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre au point la configuration institutionnelle la plus efficace permet de calculer au plus juste l'équilibre entre les libertés rivales, qu'il n'y ait pas de collision, qu'il n'y ait pas de choc, en imposant, ça c'est un grand souci libéral, le minimum d'exigence et de contraintes, en garantissant ce que j'appelle le taux d'imposition existentielle le plus bas. L'État libéral, c'est celui qui nous en demande le moins sur tous les plans. Et c'est un problème de technique. Quel est l'ajustage mécanique qui va permettre qu'on évite là-dessus les collisions et les chocs? Ça veut dire que, pour prendre une distinction, le droit libéral ne se pose plus la vieille question philosophique de la vie bonne et de la meilleure manière de vivre. Il ne s'agit plus de définir une manière de vivre, mais un modus vivendi, technique, pour que les gens coexistent sans se cogner. Et je dis toujours que l'analogie la plus claire pour comprendre ce qu'est le droit libéral et la société libérale, poussé à sa propre logique, c'est le code de la route. Le code de la route repose sur aucune métaphysique. Sa fonction est technique, éviter les collisions, qui n'est pas d'accident, mais personne ne déduira de le choix de la couleur verte, rouge, ou de la gauche à droite, l'indice d'une métaphysique religieuse particulière. Il y a des origines, mais ce n'est pas central dans le code de la route. Quant à ce que ces pauvres particules élémentaires au mouvement brownien perpétuel estiment être leur devoir ou leur honneur, encore une fois, l'État libéral, l'État juste, ça ne le concerne pas, c'est au fond exactement l'inverse de l'État platonicien. L'État libéral est l'État qui se vante d'être sans idée ni valeur, de n'avoir aucun jugement à produire sur la meilleure manière de vivre, et au fond, pour reprendre la fameuse distinction de Saint-Simon, il se perçoit même plus comme un État de gouvernement des hommes, mais d'administration des choses, c'est-à-dire que désormais, c'est des experts en mécanique, comme ceux qu'on nomme à la tête du FMI, de l'OCDE, de la Banque Centrale Européenne, qui font les réglages techniques pour réguler ce mouvement brownien. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, ce qu'on appelait la physiocratie, c'était ça. Le gouvernement direct de la nature, dont les représentants sont les technocrates et les experts. Du point de vue philosophique, celui qui a le mieux formulé cet idéal de neutralité axiologique absolue, c'est Kant. quand il dit carrément dans le projet perpétuel, si le travail des juristes est bien fait, ben la seule mécanique du droit pour assurer une coexistence paisible, même d'un peuple de démons, même des démons sadiques et pervers, si le droit est bien fait, bon équilibre, c'est-à-dire que je fais un calcul à tout moment, je veux transgresser la loi, mais je n'y ai pas intérêt. En fait, et donc dans nos problématiques, châtiment, plaisir, peine, ça s'équilibre. Moi qui suis un démon intérieurement, j'aurais intérêt à me comporter autrement, et ça fonctionne très bien. Et je dis que c'est là, évidemment, que les ennuis du libéralisme en politique commencent. Parce que, à l'exception du Marquis de Sade, qui est un peu la face d'ombre de la philosophie des Lumières, aucun des premiers libéraux n'aurait jamais songé à célébrer comme le terme logique de la philosophie libérale l'avènement d'un peuple de démons. Mais le problème, c'est que dans la logique libérale, je vois pas comment on peut éviter d'en arriver là, comment on peut se protéger contre ce passage à la limite. Je rappelle que l'autorité du droit libéral est légitime s'il se borne à arbitrer le mouvement des libertés concurrentes sans jamais faire appel à d'autres critères que ceux de la liberté elle-même. Lille encore, l'État libéral et le droit libéral, c'est comme l'agent qui règle la circulation, comme on a vu, comme l'ordinateur central qui règle de manière techniquement admirable la circulation immobilière. Tout est fait par ordinateur, c'est un modèle d'administration des choses et non pas de gouvernement des hommes. Il ne faut pas s'en prendre à quelqu'un, c'est l'ordinateur. On peut toujours demander si derrière un ordinateur, il n'y a pas quelqu'un. Et ça, libéral, je ne peux pas en entendre parler. C'est la nature, c'est la technique, c'est la science. Personne n'est responsable des agents qui sont arrivés à tel point, des situations impossibles au rond. Ça, c'est un autre problème. Effectivement, le seul critère que j'ai le droit d'utiliser, le seul joker, c'est je ne peux limiter la liberté que par de la liberté. Et c'est quoi le critère de la liberté? Il n'y en a qu'un. Ne pas nuire à autrui. Avec ce critère, il est central, les constructions libérales. D'ailleurs, c'est banal, quelqu'un va dire, une société libre est une société où chacun peut faire tout ce qu'il veut, dès lors qu'il ne nuit pas à autrui. Seulement, le problème, c'est que, en dehors de 2-3 cas mineurs, enfin, je ne sais pas, élémentaires et évidents, encore, je ne sais pas si quelque chose est évident à ce point-là, c'est le critère le plus difficile à manier dans la pratique. Il disait John Stuart Mill, il passe des centaines de pages à essayer de se démêler de cette histoire de comment ne pas nuire à autrui. Je vais prendre un exemple. Si ce critère, c'est ne pas nuire à autrui, premier exemple qui vient à l'esprit, de quel droit une société libérale pourrait donc empêcher un individu de se nuire à lui? Donc, Milton Friedman ou Cohn-Bendit, deux grands libéraux, dont l'un est mort, militent avec ardeur pour la légalisation des droits. C'est-à-dire que, pour un libéral, taper dans un ballon de football ou se fixer à l'héroïne sont deux manières d'occuper ses loisirs, de mettre en œuvre sa conception privée de la vie bonne, et d'un point de vue libéral, il n'y a strictement aucun sens, philosophiquement, à dire que l'une pourrait quand même être meilleure que l'autre, parce que chacun est juge de son propre bonheur. Ça, c'est se nuire à soi-même. Si j'ai envie de couper un mort. Tout ça, c'est ton problème. Si maintenant je me place sur le plan des relations des individus entre eux, sur quelle base décider, par exemple, que le fait de critiquer une religion, de la caricaturer, ne nuit pas à l'exercice de la liberté religieuse? À l'inverse, dans quelle mesure les enseignements de telle ou telle religion sur le statut de la femme ou de l'homosexualité ne sont pas une atteinte aux droits des minorités? Autre exemple, légiférer sur le droit de grève dans le service public. Si je prends comment, sur quelle base trancher, si je dois avoir un critère purement technique et neutre, entre le droit du travailleur à faire grève, celui de l'usager à disposer du service public? Comment trancher entre, troisième exemple, entre le berger qui exige que son agneau soit protégé et l'écologiste parisien qui est prêt à monter aux barricades pour défendre les droits du loup? Alors, il y a une chose qui est très curieuse, parce que jusque-là, le loup et l'agneau chez La Fontaine, c'était plutôt une fable que les gens de gauche, en général, choisissaient l'agneau contre le loup. Ne serait-ce que parce que la métaphore du loup, l'homme est un loup pour l'homme dans les constructions libérales, nous avons maintenant une nouvelle gauche qui choisit dans la fable de La Fontaine le point de vue du loup contre l'agneau. Mais enfin, bon, qu'il soit en liberté, le loup, parce qu'on pourrait dire qu'il n'en est pas, mais ça... Ça nuit à l'estime de soi du loup, peu importe. Argument qui n'est rien, puisque vous savez que les antispécistes sont en train de se développer et militent pour l'abolition de la distinction entre l'homme, l'animal et la cybermachine. Vous avez tout un mouvement philosophique de plus en plus répandu. Les principaux cadres sont un normal sud, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui, hein, qui disent que dans 15 ou 20 ans, il faudra que dans les parlements, il y ait un représentant des lapins, des arbres, etc. Et il faudra qu'il y aura des congrès où les cybermachines auront leur délégué. Ça, c'est Dominique Estelle, qui est un grand théoricien, mais aux États-Unis, ça va beaucoup plus loin. Bref, si le droit libéral doit s'interdire pour motiver tous ces arbitrages, de prendre appui sur la moindre conception métaphysique particulière, conception déterminée du salut de l'âme, comprendre de la décence commune, de la dignité humaine, je dis même dignité humaine. Vous savez qu'à Nuremberg, les juristes libéraux, bon, ils n'ont pas eu le dessus à l'époque, mais ils ne voulaient pas de la notion de crime contre l'humanité. Ils disaient, crime contre l'humanité, ça suppose qu'on puisse définir l'essence de l'homme et lui conférer une dignité particulière. Or, c'est une métaphysique, c'est pas neutre. Donc, ils ont milité pour que le concept de crime contre l'humanité ne soit pas retenu. De nos jours, il y a le fameux Bourdillot, Daniel Bourdillot, juriste libéral, qui traque partout la notion de dignité humaine. C'est quelque chose de trop, c'est métaphysique. C'est incompatible avec la neutralité du droit libéral. Et donc, si on part de cette neutralité, si je me lis les mains dans le dos en n'ayant pas le droit de faire intervenir de la philo, étant donné ce qu'on appelle l'évolution des mœurs, devenu pour nous une sorte de chapitre de l'évolution des espèces, le droit se trouve confronté à des problèmes de société de plus en plus impossibles à résoudre de façon cohérente, dans le cadre strictement technique, c'est les mêmes parties. Et donc la pente naturelle, c'est de régulariser massivement, dans un premier temps, tous les comportements possibles. Considérons le cas emblématique de la prostitution. Si le seul critère qui permet de départager les actes licites et illicites, c'est-à-dire ce qui n'est pas un crime, les libéraux distinguent les vices, tout ça chacun est lui, il n'y a pas de définition universelle, et les crimes, ce qui lui est autrui. Si le seul critère, c'est le consentement des individus, de quel droit pourrait-on prétendre que la prostitution, dès lors qu'elle est pratiquée volontairement, n'est pas un métier comme les autres destiné à rentrer dans la catégorie prometteuse des services à la personne? Bon, je ne parle pas ici de la question de savoir s'il faut légaliser, interdire, pas du tout sur ce plan, moi. Je pose la question philosophique, est-ce un métier comme un autre? À ce moment-là, j'ai pris le cas de la prostitution, mais je pourrais prendre le cas de la polygamie. Du moment qu'un homme et 11 femmes sont consentants pour aller voir telle mère en disant de lisser notre union que la République nous liste, les critères libéraux sont là, je ne peux pas prononcer d'une certaine manière. Ça va plus loin. Vous avez vu qu'en Allemagne, il y a un grand problème actuellement pour abolir l'article 173 du Code pénal qui interdit l'inceste. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent se marier, ils sont consentants. Ils disent, mais si on se marie entre nous et qu'on est d'accord, ça ne regarde pas la société, et leur avocat dit, la prohibition de l'inceste, c'est une surveillance folklorique de l'histoire, et donc, le critère de consentement est là, il ne nuise à personne, c'est une union comme une autre. Eh bien, dès lors qu'on rentre dans cette logique, il est difficile de ne pas suivre le juriste libéral Daniel Bourdillot lorsqu'il écrit, la personne adulte est la seule capable de déterminer ce qui lui convient. De quel droit l'État interdirait-il à une personne la faculté d'avoir des relations sexuelles moyennant rétribution et de faire de cela sa profession habituelle? Et du coup, les féministes, entre guillemets, libérales, à savoir Marcelle Yacoub et Catherine Millet, sont très contentes. Elles publient donc leur manifeste dans Le Monde qui dit, en tant que femmes et féministes, nous nous opposons à ceux qui prétendent dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps et leur sexualité. Nous nous opposons à ceux qui s'acharnent à réprimer l'activité prostitutionnelle au lieu de chercher à la déstigmatiser, afin que celles qui ont choisi ce qu'elles considèrent comme un authentique métier puissent l'exercer dans les meilleures conditions possibles. La question de fin n'est pas celle du droit, mais de savoir si ça a un sens à dire que c'est un métier comme un autre. Et je rappelle qu'un marxiste dans la salle qui dirait « mais il y a là un cas de marchandisation des corps », je lui dis « attendez, marchandisation, aliénation, essence humaine, ce sont des catégories d'une métaphysique particulière, ça rentre pas dans le tribunal. Et donc, la coupe par pays, c'est un métier comme un autre. Petite parenthèse, j'avais écrit dans mon livre, si c'est un métier comme un autre, et si l'école a toujours pour fonction de préparer le métier, il est donc logique qu'on puisse faire un bac pro avec les examens, le corps enseignant, les épreuves pratiques. Et comme toujours, c'est ça la logique libérale. Moi, je l'avais dit en plaisantant. Et voilà que j'apprends que la Nouvelle-Zélande, qui est le pays le plus libéral du monde, c'est-à-dire là où la gauche a fait la première fois sa mue, la gauche moderne, et a fait Thatcher et Reagan avant. Eh bien, ça y est, je regardais dans le courrier international du mois d'août, le gouvernement libéral néo-zélandais a réuni l'université, en fait, l'université de Nouvelle-Zélande, et leur ont dit, bon, ben, la prostitution étant un métier comme un autre, il serait bien qu'elle soit pratiquée dans les meilleures conditions à la fois de santé, ce qu'on peut comprendre, et d'efficacité des services rendus. Et donc, désormais, c'est, en dernier élève, professeur en stage l'an prochain, c'est quelque chose qui en Nouvelle-Zélande se met en place, et qui est tout à fait dans la logique, lui par Marcella Yabou. Et ce schéma peut évidemment être appliqué à tout, hein, y compris aux revendications les plus contraires au bon sens et à la commande sociale comme on le voit aux États-Unis. C'est pour ça de savoir de manipuler les techniques de la déconstruction qui permettront de transformer n'importe quelle limite éthique ou politique en une sorte de tabou arbitraire et historiquement déterminé. Le problème, c'est que ce processus est sans fin, mais surtout, il soulève un problème pratique, parce que si donc certains, au nom de ce droit sans fin, peuvent développer jusqu'au bout leur programme, problème, c'est qu'il va y avoir d'autres individus et d'autres associations qui vont estimer que chacune de ces nouvelles avancées du droit nuit à leur propre liberté, à la mesure par exemple où elles portent atteinte à leur estime de soi, qui est une partie désormais intégrante de cette liberté. D'où ces conflits étranges qui se multiplient désormais. Vous avez d'un côté, je le rappelais il n'y a pas longtemps, certaines associations des personnes obèses qui demandent l'arrêt d'une campagne d'information sur l'équilibre alimentaire. J'ai le droit de manger de la viande autant que je veux, et ces campagnes visent à me culpabiliser, nuisent à mon estime de soi, sont une atteinte à ma liberté. Mais en face, il y a la Veggie Pride, qui se développe depuis 2-3 ans à Paris, qui dit de végétariens, et qui demande à inscrire la végétophobie dans les crimes que le droit, hein, dit de j'aime bien la viande, amende. Robot végétophobe. Donc là, entre les associations qui défendent l'alimentation carnée à volonté, pour en prendre comme je veux, et ceux qui sont défenseurs des anguilles et des anguilles, le juriste libéral qui n'a droit à aucun joker philosophique, il est mal barré. Voir ce matin dans le livre, la moitié des Français pour la corrida, oui. L'autre contre. Ou cet étudiant belge qui demande l'interdiction de Tintin au Congo. Hein, mais dit, très bon. Autrement dit, quand, je ne pas me députer, quand je dénonce la dérive infinie des nouveaux droits, c'est pas tant au nom de l'idée que, à un moment où il y a des limites arbitraires de la vie, c'est que de toute façon, ce processus va finir par se retourner contre lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a ce que s'appelait ce droit de tous sur tout, eh bien, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive à réinstaller la guerre de tous contre tous, mais cette fois-ci, devant les tribunaux et par avocat interposé. Vous savez, dans le monde libéral, il y a deux grandes figures centrales, l'entrepreneur, et regardez les séries télévisées américaines, l'avocat. Et les soldats, les théoriciens de politique correcte sont les soldats métiers, en général, de cette guerre. Et puisque le droit libéral, quand il doit trancher ses prétentions contradictoires, il n'a pas de critères à sa disposition philosophique. Il n'a pas le droit. C'est ah, attention, ça c'est pas neutre. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il est conduit à enregistrer passivement les variations des rapports de force qui travaillent la société. Donc aujourd'hui, l'interdiction du tabac,